Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Après le coup de théâtre, la reprise des débats ce soir à l'Assemblée sur le pass vaccinal, ambiance électrique, pour ou contre, le flou règne toujours chez les LR. Alors que Valérie Pécresse présentait aujourd'hui son équipe et veut se concentrer sur la campagne présidentielle. À l'école, on s'arrache les cheveux et les tests. La grande désorganisation depuis hier. Nous sommes aux côtés d'un proviseur adjoint depuis ce matin qui gère au mieux le nouveau protocole et la multiplication des cas. Dans l'actualité encore, la première mise en examen depuis 18 ans et le crash de l'avion égyptien de la Flash Airlines au large de Sharm el-Sheikh en Égypte qui avait fait plus de 130 victimes françaises. Le prince Andrew, fils de la reine d'Angleterre, évitera-t-il un procès pour agression sexuelle aux États-Unis? Et puis nous irons en Chine à un mois tout juste des Jeux Olympiques. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir nous sommes heureux d'avoir votre avis et vos questions sur cette drôle de campagne électorale qui est en cours, empêchée par le Covid. Est-ce qu'elle est vraiment faussée ou au fond est-ce que la télé est plus importante que les meetings? Une campagne et une démocratie aussi cannibalisée par le Covid. Les débats sur le pass vaccinal en sont une preuve de plus. À vos téléphones, au 01 45 24 7000.
France Inter. Pas loin de 300 000 nouveaux cas en 24 heures. Le virus galope et vous tirez sur le frein à main. Jean Castex, hors de lui cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ambiance houleuse depuis le coup d'éclat de l'opposition hier soir, qui a voté la suspension pour quelques heures de l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal. La pause aura duré toute la journée. Les débats ont repris il y a une heure maintenant. Simon Le Baron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'Assemblée et le gouvernement espère que tout cela ne soit juste qu'un contretemps.
Eh oui, avec l'objectif de mettre en place ce pass vaccinal au plus tard le 17 janvier, nous confie un ministre, cela ferait au pire 48 heures de retard. Pour y arriver, les députés vont cette fois siéger au-delà de minuit, mais pas toute la nuit. La majorité et les oppositions ont coupé la poire en deux. Ce sera a priori jusqu'à 2-3 heures du matin. L'exécutif veut ensuite que le texte soit voté demain soir pour partir au plus vite au Sénat. Alors, en ce moment, les députés débattent du point sans doute le plus sensible du texte, le pass vaccinal pour les 12-17 ans auxquels les oppositions en cœur disent non.
Nous sommes nombreux ici à nous inquiéter des conséquences de l'extension de ce pass vaccinal sur les enfants et les adolescents.
Donc l'objectif, c'est de maintenir le pass sanitaire pour eux et de les exonérer du pass vaccinal.
Monsieur le ministre, je ne vais pas reprendre l'intégralité des arguments de mes collègues que je trouve excellents et auxquels évidemment j'adhère. On a déjà eu ce débat hier soir.
Mais cette fois, le ton est beaucoup plus apaisé du communiste Stéphane Peu à Marine Le Pen en passant par la LR Émilie Bonnivard. Une victoire pour la droite, le RN et les Insoumis. Un couac pour le gouvernement et la majorité. Mais le coup de théâtre d'hier soir devrait donc en rester là.
Simon Le Baron en direct de l'Assemblée avec Hélène Langlois. Débat plus apaisé ce soir sur un texte qui fait des remous entre l'opposition et le gouvernement, qui ne fait pas l'unanimité non plus chez les LR. Un tiers des députés du parti n'a pas voté l'article 1er hier, contre la position du groupe, contre la position de leur candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, qui l'a rappelé ce midi alors qu'elle inaugurait son QG de campagne. Mais Valérie Pécresse veut mettre de côté les divisions pour foncer droit sur l'échéance d'avril. Anne Souhaitement était sur place.
Mesdames et messieurs, la véritable campagne présidentielle commence.
Valérie Pécresse aura donc mis un mois à constituer son équipe. Au pupitre, elle énumère les noms, 9 conseillers, dont ses anciens rivaux du Congrès.
Éric Ciotti sur l'autorité.
6 porte-parole.
Agnès Evren, Christelle Morançais.
Une vingtaine d'orateurs régionaux.
Dans les Hauts-de-France, Vanessa Avilo-Bertrand et Julien Dille.
Tous, ou presque, Laurent Wauquiez brille encore une fois par son absence, sur scène, autour de la candidate.
Toute cette équipe constitue ma grande armée. Une grande armée de conquêtes au service de la France.
Plus de 70 personnes, dont la moitié de femmes, représentant tous les courants de la droite, tout le monde à bord, insiste l'entourage de Valérie Pécresse. Affichage, répond un fin connaisseur de la droite, qui retient surtout qu'avant même de présenter son équipe, Valérie Pécresse en a perdu le contrôle. Référence au coup politique, hier soir, des députés LR à l'Assemblée. Pourtant nommé porte-parole de la candidate, Aurélien Pradier n'hésite pas à aller contre l'avis de Valérie Pécresse sur le pass vaccinal, et il n'est pas le seul.
On n'est pas des moutons, vous êtes trop habitués aux députés En Marche. Vous êtes trop habitués à avoir des Playmobil qui, au premier coup de sifflet, obéissent sans réfléchir. Nous ne sommes pas des clones.
Défi pour Valérie Pécresse à moins de 100 jours du premier tour, éviter les clones, tout en préservant l'ADN de la droite.
Un reportage signé Anne Souhaitemont.
Et pendant que les députés débattent, les écoles se débrouillent.
Pour s'y retrouver dans le nouveau protocole, les cas de Covid se multiplient chez les élèves et les enseignants, les parents se bousculent. Pour faire tester les enfants en pharmacie depuis hier, un test PCR ou antigénique et deux autotests ensuite, censés être gratuits, pour avoir le droit de revenir à l'école. Mais il faut encore le temps que tout ça se mette en place et ce n'est pas simple non plus dans les collèges et les lycées. Sonia Princet a passé la journée cité scolaire Paul Valéry, collège-lycée dans le 12e arrondissement de Paris. Une journée de la débrouille.
Elle n'était pas là.
Dès ce matin, il a fallu faire le point sur les absences des élèves et des quelques professeurs qui ont dû rester isolés.
Ils ont SVT maintenant et ils me demandent.
Georges Papadopoulos, conseiller principal d'éducation au collège, n'a pas beaucoup lâché le téléphone.
Depuis la rentrée hier matin, on continue, on reçoit des coups de fil de parents qui nous préviennent que leurs enfants sont qu'à contact parce que eux-mêmes sont positifs et ça n'arrête pas. J'ai eu un cas, une maman qui m'annonce que son enfant est positif alors qu'hier il était présent en cours et en pleine santé. Et hier soir, elle a voulu l'emmener au cinéma. Donc comme il n'est pas vacciné, elle a fait un autotest pour pouvoir l'emmener au cinéma. Et en faisant l'autotest, elle s'est rendue compte qu'il était positif alors qu'il est totalement asymptomatique. Tout ça est un peu difficile à gérer, mais on fait au mieux.
Dans les couloirs, les surveillants comme Clémence ont passé leur journée à rappeler à l'ordre les élèves qui portent mal le masque.
On a des élèves qui sont qu'à contact, qui le savent, mais qui ne sont pas forcément non plus extrêmement rigoureux sur les gestes barrières après. Donc on essaye de garder un peu d'ordre dans tout ça, mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail aussi pour les assistants d'éducation.
Et dans la cour, ces collégiens ont discuté, collés les uns aux autres, sans masque pour certains.
Comme on est dans la cour et qu'il y a l'air, et que la cour elle est assez grande pour au moins 1000 personnes, ça va.
Mais il ne faut pas qu'on soit trop rapprochés.
Les contaminations vont forcément se multiplier. L'équipe du collège s'attend à de nouveaux appels des parents demain matin.
Et il y a aussi beaucoup de questions chez les syndicats sur l'accueil des enfants de soignants. Le porte-parole du gouvernement a confirmé ce que France Inter vous révélait dès hier soir. Ils seront accueillis, même si leur classe est fermée ou leur enseignant absent, et ça sur tout le territoire national. Le syndicat SE-UNSA se demande comment, puisqu'on ne peut les répartir dans d'autres classes, les brassages étant interdits. Et dans les facs, l'organisation cette semaine des examens en présentiel est aussi compliquée. Des pétitions fleurissent un peu partout pour demander leur report ou leur bascule à distance. Les étudiants positifs ou cas contact devront pouvoir bénéficier d'une session de substitution différente des rattrapages. Les petites entreprises, elles, qui s'inquiètent depuis un moment du remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État, vont pouvoir souffler. Ces remboursements devaient commencer en mars, mais avec la crise sanitaire qui dure, le ministre de l'Économie a décidé de repousser la première échéance. Bonsoir, Kathleen Comte.
Bonsoir.
C'est une bouffée d'air, hein, mais pour combien d'entreprises exactement ?
Eh bien, elles sont 700 000 à avoir contracté un PGE depuis le mois de mars 2020. Parmi elles, environ 80% de TPE-PME, les très petites et moyennes entreprises qui voyaient l'échéance du premier remboursement arriver à grands pas. Finalement, ce ne sera pas mars, mais septembre. Le ministre de l'Économie laisse 6 mois de plus à ceux qui le souhaitent. Autre annonce, l'étalement des paiements sur 10 ans contre 6 ans actuellement. Un soulagement pour la CPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Pour François Asselin, son président, tout le monde est gagnant.
Parce qu'une entreprise qui aujourd'hui ne pourrait pas rembourser ce prêt qui est garanti à hauteur de 90% par l'État, eh bien se retrouvera au tribunal de commerce. Et là, du coup, l'État perdrait sa créance. Si on lui permet d'étaler les remboursements de ses emprunts, l'État pourrait bénéficier bien évidemment de ces remboursements qu'elle a prêtés à l'entreprise avec les intérêts qui vont avec, c'est tout à fait normal.
François Asselin souhaite tout de même en savoir plus sur la mise en place de ces changements.
Ce que nous demandons, c'est d'éclaircir vraiment cette position pour qu'on soit sûr que l'ensemble des entreprises soient concernées par ce potentiel étalement de frais pré-garantis par l'État, quelle que soit leur taille, petite, moyenne ou plus grande.
Reste à savoir si ces délais permettront aux entreprises les plus touchées par la crise de se relancer. Certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, par exemple, sont en effet toujours en manque d'activité.
Kathleen Comte, quant aux 3 jours de télétravail, il ne fallait pas comprendre que c'était une obligation pour chaque salarié, mais une moyenne à respecter au niveau de l'entreprise. Précision aujourd'hui de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Certains peuvent faire plus et d'autres moins.
Allez, le variant Omicron circule dans une centaine de pays, c'est ce que dit l'OMS.
Les États États-Unis ont passé le cap du million de cas par jour. Aujourd'hui, ce n'est plus une courbe, c'est une verticale. En Inde aussi, la propagation inquiète. Alors que moins de la moitié de la population a reçu 2 doses de vaccin. Le pays vient donc de lancer la vaccination des adolescents. 74 millions de jeunes de 15 à 17 ans sont éligibles. Sébastien Farcy s'est rendu dans une école transformée en centre de vaccination à New Delhi.
Ayush est assis sur une des nombreuses chaises placées devant l'entrée de l'école Ishani au sud de New Delhi et il attend pour se faire vacciner. Ce garçon de 15 ans a le visage crispé derrière son masque et il fait défiler frénétiquement des messages sur son téléphone. Ce n'est clairement pas une partie de plaisir pour lui.
Je ne me sens pas mal, mais je ne me sens pas bien non plus. D'un côté, c'est bien de se faire vacciner. D'un autre, c'est pas bien. Je suis confus, je suis nerveux. En fait, j'ai peur.
La tension est palpable chez tous ces jeunes, mais une fois rentrés, l'atmosphère est plus détendue, car ici, on vaccine au milieu de dessins d'enfants. Le docteur Abhishek Singh s'occupe de ce centre.
Vacciner dans une école, ça rassure les enfants et ça permet aux parents de les confier aux enseignants quand ils ne peuvent pas venir. Et ça marche. Hier, nous avons vacciné 600 personnes ici, dont l'essentiel sont des adolescents.
Lundi, pour le premier jour, plus de 4 millions d'adolescents de 15 à 17 ans se sont fait vacciner en Inde, soit plus de 5% de la population éligible. Cela n'empêche pas la vague Omicron de faire exploser le nombre de nouveaux cas de Covid-19. New Delhi est particulièrement touché et les autorités viennent d'y déclarer un confinement pour le week-end prochain.
Reportage signé Sébastien Farcy. Et si dans 2 mois la pandémie était derrière nous, cette vague peut-elle vraiment être la dernière, comme le laissait entendre le ministre de la Santé, Olivier Véran, dimanche? On a tous envie d'y croire, évidemment. C'est ce que pronostique une épidémiologiste parmi les plus éminentes du Danemark, qui scrute à la loupe les données d'Omicron, beaucoup plus contagieux, on le constate tous les jours, mais moins sévère. Dans 2 mois, on en sera sorti, pense-t-elle. Le pic est déjà passé en Afrique du Sud, qui a été le premier à alerter sur Omicron. Le couvre-feu est désormais levé. Mais quand une star tente de contourner les contraintes vaccinales, ça fait beaucoup réagir. Le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic, qui ne fait pas mystère de sa réticence à la vaccination, compte bien disputer l'Open d'Australie. Adèle Belhoumri, bonsoir.
Bonsoir.
Il vient donc de présenter une dérogation médicale.
Oui, fin du suspense. Il l'a annoncé sur son compte Instagram ce matin avec une photo depuis un tarmac. Et ce texte, direction l'Australie avec une autorisation d'exemption, autrement dit une dérogation. Parce que oui, Novak Djokovic n'est pas vacciné. En tout cas, c'est ce qu'il laisse encore comprendre dans ce texte. La Fédération australienne de tennis confirme qu'une dérogation médicale a été octroyée après un examen rigoureux. Une fédération qui a fait volte-face puisqu'en novembre, on nous dit que la participation à l'Open d'Australie est obligatoirement assorti d'une vaccination complète. Avant de changer d'avis début décembre, il faudra être vacciné ou avoir une exemption médicale. Cette participation du numéro 1 mondial fait déjà forcément réagir côté joueur. À commencer par Jamie Murray, le frère d'Andy Murray. Je cite, si c'est moi qui n'avais pas été vacciné, je ne pense pas que j'aurais obtenu une exemption. Bravo à lui de l'avoir obtenu. Pour Paul-Henri Mathieu, notre consultant tennis Radio France, cela pose forcément question.
Ça paraît louche et c'est plutôt étonnant, je dirais, effectivement. Alors, les protocoles et les règles sanitaires changent très rapidement. Et au mois de novembre, quand on avait écouté, effectivement, l'Australian Open se prononcer, ils avaient été clairs en disant qu'aucun joueur ou joueuse non vaccinée pourrait participer. Ensuite, ils ont changé, effectivement, leur fusil d'épaule début décembre en disant que c'était possible de demander une exemption médicale à faire avant le 10 décembre. On a l'impression qu'effectivement, c'est le seul joueur ou qu'aucune autre joueuse, en tout cas, n'ait fait cette demande.
Et il n'y a pas que les joueurs qui s'expriment. Les premières réactions négatives sont apparues dans la presse australienne, à l'image du courrier mail qui lance en une « You must be joking ».
Vous devez plaisanter, traduction et jeu de mots avec le
elle
nom
est bonne,
de Novak Djokovic.
Allez, une enquête vieille de 18 ans qui avance enfin.
Celle du crash d'un avion au large de Sharm el-Cher en Égypte. L'accident avait fait 148 morts, dont 134 Français le 3 janvier 2004. Et bien 18 ans après, première mise en examen révélée aujourd'hui par nos confrères du Parisien, celle de l'ancien directeur général de la compagnie aérienne égyptienne Flash Airlines qui exploitait l'appareil. Bonsoir Ariane Greissel.
Bonsoir.
C'est un soulagement pour les familles des victimes dans un dossier qu'elles ont longtemps cru laissé à l'abandon.
Oui, l'enquête a été ouverte en France à Bobigny dès le jour du drame, donc ce 3 janvier 2004. Mais en 2017, un non-lieu est prononcé. La justice estime qu'il n'y a pas assez d'éléments contre la compagnie elle-même. Les familles font appel et obtiennent en 2019 la reprise des investigations. Depuis, la procédure est entre les mains du pôle Axis accident collectif à Paris. C'est là qu'un juge d'instruction a décidé de la mise en examen de l'ancien dirigeant de Flash Airlines, une compagnie qui n'existe plus. Il s'agit d'un Égyptien qui vit en Égypte. Les enquêteurs le soupçonnent de ne pas avoir assez formé les pilotes, de ne pas leur avoir laissé assez de temps de repos, ce qui peut expliquer une mauvaise réaction quand l'avion a changé de trajectoire. Les proches des victimes espèrent aujourd'hui des explications. Isabelle Manson est la présidente de leur association. Elle a elle-même perdu 4 proches dans cet accident.
On accueille ça avec un sentiment de soulagement. Enfin, quelque chose bouge. Enfin, ça va dans le bon sens. 18 ans après, on n'est pas tout à fait dans le même état que le premier jour, mais on est quand même très très marqué pour toute notre vie. On attend de savoir un peu plus ce qui s'est passé. On attend que la justice reconnaisse des erreurs qui ont pu être commises et que ça puisse améliorer la sécurité aérienne.
Éviter d'autres drames, c'est là le principal objectif des proches de victimes, des familles qui se sont retrouvées hier au cimetière du Père-Lachaise à Paris, comme tous les 3 janvier, pour rendre hommage aux 148 disparus.
Ariane Grissel, une enquête ouverte pour tentative d'assassinat terroriste après l'explosion sur le Dakar en fin de semaine dernière, qui a touché la voiture d'un équipage de 5 Français. Le conducteur est grièvement blessé. Un avertissement, c'est la sanction la plus basse proposée à l'encontre du patron de la police de Gironde après le féminicide de Mérignac. Conseil de discipline rarissime aujourd'hui pour 6 policiers. Une exclusion de 3 jours avec sursis a été demandée pour un autre soupçonné de manquement dans le suivi de l'homme accusé d'avoir brûlé vive sa compagne en mai dernier. Le prince Andrew, l'un des fils de la reine d'Angleterre, sera-t-il jugé pour agression sexuelle? Son nom est apparu dans le dossier Epstein et Ghislaine Maxwell qui vient d'être condamné pour trafic sexuel. Les avocats du prince demandent le classement sans suite d'une plainte, mais le juge en charge du dossier ne semble pas décidé à classer l'affaire. À New York, Loïc Loury.
Les faits évoqués dans cette plainte remonteraient à 2001. Virginia Giuffre avait alors 17 ans. Cette année, dit-elle, le prince Andrew l'a agressée sexuellement à Londres, New York et aux îles Vierges, où Jeffrey Epstein, un ami du duc, possédait des résidences. Le prince lui a toujours nié les faits, affirmant ne pas se souvenir d'elle. Une version mise à mal par les nombreuses photos les montrant ensemble. D'après ses avocats, la plainte déposée à New York n'en est pas moins sans fondement, car Virginia Giuffre, 38 ans, avait en 2009 signé un accord avec Jeffrey Epstein, s'engageant à ne poursuivre ni l'homme d'affaires, ni d'autres accusés potentiels comme le prince, assure ses avocats. Un argument face auquel le juge, aujourd'hui, a toutefois semblé sceptique. Lui qui avait déjà rejeté une première requête en annulation le mois dernier. Si les recours du prince continuent ainsi à échouer, un procès au civil pourrait se tenir à la fin de l'année. Explosif pour la monarchie britannique. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et puis l'actualité à l'étranger nous ramène aussi en Chine. Un mois tout juste avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques à Pékin, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête à cause de l'épidémie et du boycott diplomatique de plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Australie, qui entendent ainsi dénoncer la situation des droits de l'homme dans le pays. Ça fait réagir les Chinois interrogés sur l'un des sites olympiques, la station de ski de Chongli, par notre correspondant Sébastien Berriot.
Les passionnés de ski dans la station de Chongli espèrent bien assister aux épreuves des JO. On ne cache pas sa fierté de voir Pékin accueillir les Jeux pour la 2e fois. Et dans ce contexte, le boycott diplomatique énerve Zhen Qiang, la 50aine.
Je suis dégoûté par le boycott. Je pense que le sport olympique ne doit pas être mêlé à la politique. Cela va à l'encontre de l'esprit olympique. Je déteste ces pays.
Des propos qui viennent confirmer le nationalisme ambiant en ce moment en Chine, en pleine rivalité avec les États-Unis. Mais sur le télésiège, Xiao lui estime que ce boycott ne changera pas grand-chose.
Je me fiche du boycott parce que la plupart des pays vont participer. Je crois que nous aurons de très bons Jeux Olympiques. Nous n'avons pas besoin de faire attention à ces gens. Quiconque vient en Chine, nous le recevrons et le servirons bien.
L'attitude de la France, qui n'est pas favorable au boycott diplomatique, est saluée par de nombreux skieurs.
Nous aimons bien Macron. Je suis d'accord avec son attitude. La politique et le sport ne peuvent pas être mis sur le même rang.
Beaucoup de skieurs préfèrent retenir la présence annoncée aux Jeux de grandes personnalités comme Vladimir Poutine ou encore le secrétaire général de l'ONU. Dans les montagnes du Rebeil, Sébastien Berriot, France Inter.
Et puis pour l'anecdote, les bouquets qui seront donnés aux médaillés, eh bien ils ne seront pas de fleurs mais de cachemire.
Alors bon,
oui, c'est plus durable, un tout petit geste pour le climat.
Un bouquet de cachemire, ben écoutez, pourquoi pas. Merci beaucoup Hélène Filly, évidemment on se retrouve demain pour nous dans un instant. C'est le téléphone sonne, on va parler de cette drôle de campagne électorale qui est en cours, drôle de débat démocratique aussi, avec un virus qui cannibalise beaucoup de choses, une campagne aussi sous Covid, donc à jauge. Est-ce que tout cela joue contre la démocratie et contre l'élection? Vous nous le direz. Avant cela, on jette quand même un œil sur le ciel.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Elodie Calac, encore des pluies ce soir?
Oui, elles s'enfoncent vers le sud et vers l'est. Ce soir et cette nuit, elles auront quitté le pays demain matin, sur les Pyrénées, du Massif central aux régions de l'Est. Le ciel sera encore encombré avec quelques averses, de la neige vers 300 à 400 mètres. En allant vers l'ouest et le nord, le ciel sera lumineux avec de belles éclaircies. Peut-être une petite averse entre la Bretagne et la Normandie. En Méditerranée, du soleil mais du vent fort, Mistral et Tramontane jusqu'à 110 km à l'heure. Et puis en Corse, ce sera instable avec de bonnes averses et quelques-unes aussi vers les Alpes-Maritimes.
Et il fera froid sinon?
Souvent moins 1 à 3 degrés le matin, attention aux chaussées glissantes sur le nord-est en particulier. L'après-midi, pas plus de 5 degrés à Nancy, 6 à Lille, Dijon et Lyon, 8 degrés à Paris, Caen, Angers et Toulouse, 10 pour Biarritz, pour Marseille et encore 16 à Bastia.
Allez, Elodie Calac de Météo France, merci beaucoup.